Deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, verset 22. La première année de Cyrus, donc on est en 536 avant Jésus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Donc, on est en 536, Jérémie avait annoncé cela en 640. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, juste avant Esdras. Verset 22 et suivant. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il y va fort, hein. C'est la présomption, hein. L'esprit de présomption, ça court beaucoup le monde. Ça touche parfois même les églises. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Ça, c'est très bien. Là, il doit se soumettre. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Donc, nous voyons ici que Dieu a un plan. Il l'a révélé à Jérémie un siècle avant. Jérémie l'a annoncé deux fois, dans le chapitre 24 et 25 de son livre. Mais il l'a annoncé aussi, Dieu l'a annoncé, en 780-760 par Esaïe, chapitre 44, verset 1 à 5, verset 13, et chapitre 45, verset 1. Dans Esaïe, donc Dieu ne parle pas pour rien, et c'est même pas un juif qui va penser à retourner pour reconstruire le temple, c'est un ennemi des juifs qui va y penser et qui se soumet à la volonté de Dieu. Vous voyez à quel point ça peut être magnifique, et ça préfigure la soumission des rois, des grands du monde, à Jésus-Christ quand il va venir sur terre. Quand Jésus va venir établir son royaume, ils vont tous plier le genou et ils vont accomplir la volonté de Dieu. Ok ? N'oubliez jamais ça, c'est une préfiguration. Il y en a plein d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Lisons le livre d'Esdras. Il y a deux parties dans le livre d'Esdras. Il y a une partie qui va jusqu'au chapitre 6. Faites bien attention. Oui, jusqu'au 1 à 6. Ça parlera de Zorobabel et de tout ce qui s'est passé avec Zorobabel. Ensuite, ça parlera, à partir du chapitre 7, de Esdras proprement dit. C'est quand même bizarre qu'il y a 6 chapitres qui ne parlent pas d'Esdras, alors que c'est un livre appelé Esdras. Mais c'est comme ça. Alors, chapitre 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, je vous dis bien aussi par Esaïe. Dans Esaïe, au chapitre 45, verset 1, mon serviteur, la Cyrus qui n'est pas encore né, et on est en 780 avant Jésus, Dieu le connaît. Il connaît aussi bien Cyrus qui naîtra et qui fera sa volonté, que la bourrique qui va porter Jésus, là non, le petit de l'ânesse, qui va le porter jusqu'à l'entrée de Jérusalem, dans Zacharie, 6 siècles avant. Il connaît les grands-pères et les grands-mères de Stanon, il connaît toutes les mouches qui sont nées, depuis la première jusqu'à la dernière, il connaît toutes les étoiles, il connaît tous les cheveux qui sont sur la tête de Michael, il connaît ceux que j'ai perdus, et il connaît les fines balkaniennes de Madame Rachel. Ayons une haute estime de Dieu et de son intelligence. Ne le prenons pas comme un pneu dégonflé, comme je ne sais pas quoi. Au même niveau que, par exemple, au même niveau que l'or. Non, pas du tout. C'est le Dieu des cieux, et voilà qu'un incroyant va le dire. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, donc des anges, du trône de gloire, divin, n'est-ce pas? Du temple divin dans les cieux, qu'ont vu beaucoup de prophètes, le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Bon, cet homme-là, ce Cyrus en question, il y en a déjà eu un autre avant. Cyrus Ier est décédé. Maintenant, c'est Cyrus II. Et ce Cyrus II, il n'a pas vécu trop longtemps. Il n'a pas vécu longtemps, les amis. Moins 559 à moins 530. Ça fait combien d'années, ça? C'est une vie assez courte. C'est une vie assez courte. Moins 559, moins 530. 29 ans. Eh bien, voilà. Il n'y a pas besoin de vivre vieux pour faire de belles choses. Il suffit de se laisser commander par Dieu. N'est-ce pas? Encore une leçon de la Bible. Ce n'est pas le nombre d'années qui nous rend importants. C'est ce que l'on a fait pour Dieu. Ne l'oublions jamais. Et donc, ce Cyrus numéro 2 est le 13e roi des Perses depuis le début de Élam, de l'Empire Perse. L'Empire Perse, eh bien, c'est l'Afghanistan et l'Iran. Monsieur ici provient d'Afghanistan. Il parle la langue d'Ari. La langue d'Ari était la langue perse. Il lit une Bible en perse de la langue de l'époque de ces gens-là. Les Iraniens, comme les Afghans, peuvent lire le Dari, ou le Farsi, si vous voulez, ces deux noms, une Bible, qui est toujours la langue de ces pays-là. Ok ? Et donc, c'est un empereur qui n'a pas vécu très longtemps, mais il est le 13e empereur. Après ça, il y aura des autres empereurs. Je vais passer tous les noms, c'est des noms un peu compliqués. Vous allez voir qu'on va parler d'un certain Ataxerxès, II, Assuérus. Celui-là, il va intervenir dans le récit ici. Ça, c'est le 16e empereur, roi des Perses. Donc, entre Cyrus II et Ataxerxès, il y en a eu quelques-uns. Entre 13 et 16, 14, 15. On n'a pas besoin d'en parler, ils n'ont pas d'importance, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils ne sont pas restés dans la mémoire des hommes. Alors, regardons ce que dit Dieu. Verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Les amis, vous avez en face de vous un athée. Vous avez quelqu'un de vous qui n'est pas comme vous et qui vous dit, vous êtes dans une foule, qu'est-ce qui est chrétien ici? Qu'est-ce qui est enfant de Dieu ici? Je me débine, je ne dis rien. Mais dans ce cas-là, j'aurais été dans le cas, je ne retourne pas à Jérusalem, je ne fais pas volonté de Dieu. Parce que j'ai pensé à moi, je n'ai pas pensé à prendre position pour Dieu. Dans ce cas-là, ici, on voit qu'il y en a qui vont se lever, qui vont se présenter, et qui vont, devant des incroyants, dire qu'ils sont du peuple élu. Retenez bien la leçon. À qui il se met de côté, il s'y met pour toujours. Il s'y met pour toujours. Celui qui a rougi de moi, je rougirai de lui devant mon Père et devant les anges. Faites gaffe. La Bible est très claire sur tout ça. Alors regardons ce qui est dit dans le verset 3. Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem et en Juda et bâtisse sa maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, les amis, nous n'avons pas besoin d'une maison de pierre, mais nous avons besoin d'une maison spirituelle. Première épître de Pierre. La première maison spirituelle, c'est son Église, l'Église de Christ. Nous sommes les pierres vivantes de l'édifice. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Bon. Voilà que tout d'un coup, ceux qui avaient levé la main qui s'étaient présentés reçoivent un cadeau formidable. C'est les autres qui doivent se débourser pour eux. Depuis que j'ai arrêté le travail, j'ai vu ça. D'autres ont déboursé pour nous. Nous avons reçu ici des gens. Il y a toujours eu de l'argent pour le faire. Mais le moment où j'ai arrêté avec ma femme, ce jour-là, j'étais au Luxembourg en train de faire des devis pour l'entreprise. Et dans l'auto, le Seigneur m'a dit, tu peux faire tous les devis que tu veux, tu n'auras pas ces travaux-là, c'est fini pour toi. Si tu as vu ces gens-là, tu les as visités, tu as vu ce qu'ils étaient, tu ne leur as pas parlé de moi, tu les as laissés pour compte, tu ne les reverras jamais. Tu es fautif. Et si tu continues, tu vas 6 mois à l'hôpital. Je te ferai... baissez la tête. Je rentre, j'étais comme ça. Je rentre à la maison et ma chère épouse est en train de piocher. Et ma chère épouse me dit, j'ai quelque chose à te dire. Idem la même chose. Nous sommes rentrés, nous avons prié, j'ai fait une lettre de démission. Adieu, la gestion de la société. Après, dans les jours qui viennent, que faire? Que faire? Plus d'argent, il y avait 35 personnes ici. Que faire? J'attrapais des... Toujours je repensais à Abraham. Va, quitte, quitte, quitte. Et suis-moi. Les amis, quand Dieu appelle, c'est pas à nous à discuter. C'est lui qui sait. Nous, on est ça. Et lui, il est infiniment grand. Il faut accepter d'être appelé. Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de gens qui servent le Seigneur? Mais il y a certainement beaucoup d'appelés. Pas beaucoup qui répondent. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on écoute la peur et l'intérêt. Des réflexes païens. Mais le vrai réflexe, il doit être spirituel. Seigneur, c'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui es sérieux. Tout le reste n'est pas sérieux. Je dois céder. Je dois m'avouer vaincu. Tu m'as vaincu. Tu m'as saisi. Comme Paul l'a dit, tu m'as pris. Tu m'as saisi. J'ai été saisi par Christ. Les amis, il faut bien se dire que ces Juifs-là ont ramassé un appel surprenant d'un seul coup. Ils étaient peut-être dans les affaires, dans le boulot, dans tout le bazar, et tout d'un coup, il faut quitter tout pour repartir là-haut sur un tas de ruines, avec tous des cocos qui ne vont pas être gentils avec eux. Oui ? Est-ce que c'est du courage ou de la conscience ? Non. À certains moments, on peut se le dire. Moi, je me rappelle, quand on a quitté ma femme et moi, je suis fou, là, on fait ça. Je gagnais bien ma vie, mais je gagnais bien ma vie. Tout d'un coup, plus rien du tout, plus rien. Et il y avait des réfugiés. Il y avait des gens ici pour Noël, Nouvel An. On habitait ici, la maison n'était pas finie derrière. Et il y avait une vingtaine de personnes SDF, sans rien. Alors, c'est notre habitude à Noël d'accueillir des personnes et de manger. Pas d'argent, rien à manger. On se met à prier tous les deux. Et toc, 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 il arrive une dame avec une grosse dinde. Mais la dinde, on a tous mangé sur la dinde le soir et encore dans la semaine. Et une enveloppe avec 1500 euros. Qui avait prévu que cette dame venait? Nous? Jamais. Ça a commencé comme ça, ça a toujours été comme ça. Alors, pour Jérusalem, c'est la même chose. Et les amis, pour l'école que des fonctionnaires ont empêché de démarrer, ça sera comme ça, si nous avons la foi dans le Seigneur. L'expo Bible qu'il faut faire pendant 15 jours pour enseigner des gens sur la Bible et parler du Christ, de Jésus, dans la région, si nous croyons que Dieu nous a convoqués pour le faire, il faut répondre. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. C'est ça, Dieu réveilla l'esprit. Dieu réveilla l'esprit, ben oui. Parce que je dors, paf, 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 réveille-toi, paf, paf, réveille-toi. Allez, démarre pour moi. Les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les prêtres et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et pan. Ben on dirait aujourd'hui, ils sont cinglés. Ça y est, ils abandonnent la maison, ils abandonnent tout le bazar, ils partent. Mais ils sont malades. Ah oui, parce que nous, chrétiens d'Occident, on est des sages, on est raisonnables. Ce qu'on croit, on est loin de l'être. Alors, tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Et le roi Cyrus rendit tous les ustensiles dans la maison de l'Éternel. Vous vous rendez compte, un roi qui est jeune, qui va mourir à 29 ans, hein, un empereur tout puissant, et vous savez, dans ces cours-là, aussi bien il meurt à 29 ans parce qu'il a été empoisonné, hein, ou un couteau dans le dos, hein, Toi, de là que je m'y mette, hein, c'est fréquent. Vous allez voir, Esdras, après, c'est les chansons. Pourquoi les chansons? Mais c'est, il goûte la nourriture, il goûte le vin. S'il tombe, le roi ne mange pas. Pour éviter les empoisonnements. Hein? Par exemple, au Congo, d'où vient Rachel, eh ben, c'est redoutable. Il faut faire attention d'être empoisonné. Quand il y a des sorciers ou des chefs, ah oui. Moi, quand j'ai été au Bénin, il y a du vaudou, je savais que c'était très, très dangereux. J'étais toujours avec les chrétiens. Toujours avec les chrétiens. Et des gens sûrs, hein. Je ne serais pas revenu. C'est pas des rigolos, les serviteurs du diable. Alors, verset 8. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir. Voilà. Hop. Sans retour. Sans regret. Sans remords. Comme la conversion doit se faire. Alors, nous sommes en 534. Donc, ce 13e empereur de Perse a vécu 29 ans et nous savons bien qu'il a été connu par Dieu d'avance. Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe 44, verset 28. Il était connu d'avance. Autant que l'annonce de l'ânesse pour Jésus rentrer dans Jérusalem 6 siècles avant. Tout est connu par Dieu. Quand vous allez poser un pied de main en bas du lit, Dieu sait que vous le poserez là, pas à l'autre place. Il faut vraiment avoir une considération très élevée de Dieu, les amis. Autrement, on fait le rigolo, c'est pas la foi, ça. C'est de la religiosité, du bricolage, c'est de la moquerie à l'égard de Dieu. Chapitre 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Quand? On est en 760-780. Et quand Cyrus va le faire, il n'est pas encore né. Quand Cyrus va le faire, on est en 536. Bon, les années se télescopent pour Dieu. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. En Dieu, il n'y a pas d'espace ni de temps. Ce n'est pas contingenté. Maintenant, regardez, chapitre 45 d'Ésaïe, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, je fermerai les chemins, mon Dieu. Vous vous rendez compte comment il parle à quelqu'un qui n'est pas juif? Alors, les amis, moi je pars du principe, pour l'école, comme pour la maison de prière, comme pour tout le reste de l'église. La maison de prière là-bas, je savais que c'était trop vite, trop tôt. Il y avait plein de réfugiés ici, il n'y avait pas moyen. Mais ce qu'il y a, il y a plus de 50 personnes sur le site tous les jours. Il y en a bien un là-dedans qui va faire le petit Cyrus. Qui va faire tout d'un coup, qui va débarquer, qui va dire, ben moi je viens, j'appuie le projet. Et alors, ça sera la preuve pour nous. On est comme ça. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. C'est comme ça que Dieu veut s'y prendre. Avec ses enfants. Avec ses enfants. Ses enfants qu'il a choisis et qu'il veut formater dans la foi. Parce que la foi n'est pas humaine. Il faut être formaté dans la foi. Comme le potier prend l'argile et fait le vase. Il faut être formaté dans la foi. La foi, ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre affaire. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est un don de Dieu, afin que nul de nous ne se glorifie, afin de pratiquer les œuvres préparées d'avance par Dieu. Eh bien, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, dans ce chapitre 1, nous voyons que le démarrage est donné. Par qui? Par Cyrus? Non. Bien la preuve que Cyrus n'est pas grand-chose, il meurt 29 ans. Par Dieu. Et le peuple, tout de go, s'est rendu compte que c'est... Il y a 150 ans qu'on attend ça. On n'y croyait plus. 605. Hein? On ramasse la raclée, on est déporté. Et là, il y a 70 ans, 70 ans plutôt. 150 ans, c'est autre chose après. Alors, pratiquement, ce qui se passe, Et il se rend compte que les prophètes avaient raison. Ça, c'est l'éducation. Quand il y aura une école, que les enfants qui sont dans l'école chrétienne apprennent que la prophétie est une parole de Dieu et pas une fable. Or, les fables, depuis Origène, deuxième siècle après Jésus, père de l'Église, appelé comme ça en tout cas, à Alexandrie en Égypte, a dit que les fables étaient allégoriques, étaient des images. C'est un dogme constitutif de toute l'Église catholique et de l'Église orthodoxe. Les prophéties n'ont pas de contenu historique réel. Or, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, Paul dit « Ne méprisez pas les prophéties. Ensuite, n'attristez pas le Saint-Esprit, ça va avec. » Nous sommes des croyants qui nous basons sur les prophéties de Dieu, sur ses promesses, sur son autorité, sur sa révélation. Donc les enfants, quand ils viennent dans une école chrétienne, doivent être entraînés à faire confiance à Dieu. Il faut les amener à comprendre l'autorité de Dieu. Et pas du diable. Malheureusement pour tous les autres enfants. Telle que la société les conduit, elle va les emmener dans les gouffres, dans les abîmes. Sauf si un de ces enfants-là, en grandissant, vous rencontre Angéline, rencontre Billy, rencontre Christian, un de ces enfants qui grandit, et tout d'un coup, il en a marre de tout ce qu'on lui a raconté, il cherche. Et tout d'un coup, vous lui parlez du Seigneur, et vous l'amenez au Seigneur, de manière responsable. Chapitre 2. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil. Alors, vous avez toute l'explication de tous les gens qui vont partir. Il y en a. Je pointe deux choses. Zorobabel, au verset 2, qui va devenir une tête, un gouverneur. C'est en 535 qu'il démarre. Et puis ensuite, il y a quoi? Un autre verset important, au verset 64. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. Voilà. Plus les serviteurs, etc., environ 7000. Donc, vous voyez, tout le monde, ce monde-là est mobilisé. Ça veut dire que, les amis, il faut bien vous rendre compte de ce qui se passe. S'il y en a 42 000 plus 7 000 serviteurs qui partent, ça fait 50 000. Il y aurait beaucoup plus de juifs que ça, à travers tout l'Empire perse. On retrouve des vestiges de garnisons sur le Nil, à la frontière de l'Éthiopie, l'île d'Éléphantine, une copie intégrale du temple de Salomon sur l'île d'Éléphantine. Aujourd'hui encore, on y va, on le voit. Si on va trimballer là et qu'on connaît un peu la Bible, on voit, il y a un temple à la copie de celui de Salomon. C'était des garnisons juives qui travaillaient pour Persépolis, pour Suse, les rois perses. Donc il y a plein de juifs qui sont restés peinards, qui ne sont pas partis. Vous voyez donc bien que, de toute façon, quand Dieu appelle, on n'est pas tous d'accord. Une minorité va suivre le Seigneur, une majorité va dire, ben non, j'ai mon compte en banque, j'ai ma voiture, j'ai mon champ, j'ai mes enfants. Et puis là-haut, qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, ben la majorité reste peinard. La minorité, c'est celle-là. 42 000 plus 7 000, 50 000. Il y a même des serviteurs qui ont le courage de les suivre. Et très bien. C'est une grande leçon, ce texte. De quel côté sommes-nous? Esdras, chapitre 3. Le septième mois arriva, les enfants d'Israël étaient dans leur ville, donc ils sont arrivés là-bas, ils ont été revoir leur village où le tonton, la tata avait vécu, l'arrière-grand-père, etc. Ils font connaissance, hein. Et puis, tout d'un coup, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Bon, après les retrouvailles, avec les liens de parenté, au boulot, pour Dieu. Alors, nous voyons qu'ils vont commencer par un temps de prière, mais vraiment important, jusqu'au verset 7. Un temps de prière, extrêmement important. Et il faut mettre en place, du verset 8 au verset 9, des gens compétents pour surveiller le travail et pour animer la prière. Ensuite, au verset 10, on retrouve ces manches. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles. Il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie, célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Si vous allez à Jérusalem, et que vous circulez dans la vallée du Cédron, et que vous regardez les pierres du fondement du temple, il fallait qu'ils soient motivés. Il y a des pierres comme la pièce ici. Même pire. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit... Et d'où elles venaient en plus? Il fallait les amener. Vous croyez qu'on avait des engins, là, comme j'ai vu une fois passer ici, pour l'usine d'Arnoncourt, Burgos, un camion, il y avait au moins une centaine de pneus. Il y avait un immense broyeur pour les bois. Et d'autres camions soulevaient les câbles, etc. On avait coupé les branches des arbres dans la forêt. La pièce... ça faisait peut-être 80 mètres cette pièce. Il tournait tout seul, il prenait toute la route ce camion. Il y avait un gars au bout du camion qui orientait avec ses manettes les routes derrière et qui était avec l'écouteur qui parlait au chauffeur dans le camion. Lui, il tournait toutes les routes devant. Et ils sont arrivés comme ça. Et le gars, il marchait, le gars qui était au bout, il marchait pour voir où le camion passait parce que les maisons et tout. Alors, vous imaginez la grandeur de cette opération d'amener une pièce à l'usine d'Arnoncourt qui venait de où? De Hollande, je ne sais pas. Et le gars, les kilomètres qu'il a fait à pied derrière le camion. Il était motivé, celui-là. Alors, pour Jérusalem et pour le temple, il faut démotiver. Et pour l'Église de Christ aujourd'hui, il faut démotiver. Il faut démotiver. Alors, verset 12... Plusieurs des prêtres et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondements de cette maison. Pourquoi ils pleurent? Parce que ça leur paraît une petite cabane à côté du grand temple de Salomon. C'est un petit temple, il est trop petit. Il est moins tape à l'œil. Il est moins glorieux. Ben oui, ils ont une nostalgie de la gloire de Salomon. Et oui, il y a des pessimistes. Il y a des gens qui ont le foie un peu détraqué, ils sont bileux, ils ne sont pas toujours contents. Dieu les a appelés, mais ils ne sont pas encore contents. Jonas, par exemple, hein, il a dû céder quand même. Et puis, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Ça, c'est très bien. Donc, on voit qu'un peuple de Dieu est mélangé. Il y a des gens incrédules et des gens... engagé. Et c'est Dieu qui va faire le tri plus tard. Il va prendre les brebis d'un côté, les boucs de l'autre, le blé d'un côté, l'ivraie de l'autre. Regardez bien ça. Et les responsables n'ont pas commencé à prendre leurs pieds pour mettre tous ceux qui pleuraient de côté. Non, on va les supporter. Allez, ils vont changer d'avis. On va prier tous ensemble. On va chanter. On va écouter la parole de Dieu. On verra les merveilles du Seigneur, ils finiront par un peu pleurer et à se réjouir avec nous. Donc, que les forts supportent les faibles, comme dit l'apôtre Paul. C'est la même règle pour les églises de Christ. Chapitre 4. Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ben oui, les trompettes, les cymbales, les cris et tout le bazar, ça y est, ils font de surboom, on va les voir. Mais c'est pas vrai, ils sont en train de reconstruire. Mais c'est pas vrai, on a tout fait pour qu'ils ne reconstruisent pas, ils sont là. Ah mais ça... Alors, ils sont enragés. Alors, d'abord, ils essayent la ruse. Ils viennent au verset 2, ils vinrent auprès de Zorobabel, les chefs de famille, leur dire, nous bâtirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Azaradan, roi d'Israël, qui nous a fait monter ici. Un coup de téléphone hier, à 8h du soir, c'était la prière. Il y a des personnes qui voulaient venir ici pour parler en langue. Je veux bien parler en langue, moi. J'ai déjà vu des gens parler en langue, mais comme dans 1 Corinthiens 14, 3 sur une assemblée de 600 personnes. Et quelqu'un se levait et interprétait. Et c'est exactement un texte biblique. Mais j'ai vu les autres assemblées, et shabalabala, et shabalabala, et blablabla. Et puis j'ai vu des quatre possessions dans l'assemblée. J'ai vu des singeries du diable. Et surtout j'ai vu que leurs poches se remplissaient, parce qu'ils demandent des sous. Et puis après, j'ai vu les affaires de sexe. Tout ce qui est faux est basé sur OAS. Orgueil, argent, sexe. Même si on parle de Dieu. Tout ce qui est faux. A comme fruit, OAS. Orgueil, argent, sexe. Ici, nous avons dans le peuple des gens qui vont vouloir s'introduire pour amener la poisse, hein, et faire démolir l'œuvre de Dieu, démolir l'appel de Dieu, démolir la vocation du peuple élu. Alors, Zorobabel, verset 3, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Quand je savais ce numéro de téléphone, j'ai dit à ma fille, à Noémie, nous allons prier pour qu'ils ne viennent pas s'ils sont doués de mauvaises intentions, de perfidie. Et pendant trois quarts d'heure avant le culte, j'ai demandé au Seigneur de régler l'affaire. S'ils ne devaient pas venir, qu'ils ne viennent pas. Une voiture, vous savez, ça tombe vite en panne pour le Seigneur. Ou une colique, une gastro-entérite. Ils ne savent pas démarrer. Et vous savez, Dieu est tout puissant. Je l'ai déjà vu, hein. J'ai déjà supplié le Seigneur et ça arrivait. Pourquoi que l'ennemi ne vienne pas mettre la pagaille? Il faut le demander. Regardez ce qu'il a dit, Michael. L'expérience de David, c'était ça. La lutte continuelle. Un chrétien n'a pas la vie tranquille. Il n'a pas la vie tranquille. S'il veut être planqué, il ne faut pas qu'il soit chrétien. Un chrétien n'a pas la vie tranquille. Un chrétien est avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur est avec nous. Il n'a pas promis qu'on serait tranquille. Le diable n'aime pas la tranquillité des chrétiens. Le diable n'aime pas que le chrétien soit en paix. Il veut lui voler. Alors c'est ça qui se passe ici. Les gens du pays découragèrent, verset 4, le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ben oui, puisque dans l'assemblée, il y en a qui pleuraient déjà, que le temple n'était pas beau, qu'il n'était pas comme avant. C'est facile qu'il y avait des oreilles pour les entendre. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Vous vous rendez compte, ils vont même donner des sous, il y en a qui les prennent. Ben oui, on a tout quitté, on est parti, on n'a plus rien. On va quand même bien prendre ces sous-là qu'ils nous donnent quand même. Mais c'est des sous pourris du diable. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Alors, Darius, c'est un monsieur qui a vécu en moins 423 à moins 404. Donc il n'a pas vécu vieux aussi. C'est bizarre, ils ont une vie assez raccourcie. Hein. À mon avis, ce n'est pas naturel. Plus on est haut, plus on est l'objet de convoitise et d'attaque. Plus on monte, plus il faut s'attendre à ne pas être tranquille. Je pense que par exemple, Jean-Louis, qui est dans son lit, il dort royalement, il se met dans son lit et il fait ici 15 mètres cubes de bois. Mais le chef de multinationale ne peut pas scier 15 mètres cubes de bois. Il va scier quelques bûchettes. Un quart de mètre cube, et puis c'est fini. Il a des tracas avec son argent, le cours de la bourse, les téléphones et tout le reste. Comprenez la différence avec Jean-Louis? Eh bien, c'est la même chose à cette époque-là. Donc, Darius est le 19e empereur. Il a vécu de moins 423 à moins 404. Il s'appelle Darius Ier, le Perse. On l'a appelé le Perse. C'est sous ce roi-là que le temple sera fini, en moins 417. Ça va? Le temple, on a commencé à le reconstruire en moins 557. Et on va le finir en moins 417. Eh oui. Parce qu'entre-temps, moins 557, moins 417, ben des crocs en jambes, des hostilités, des choses pour retarder. Mais ils n'ont pas ôté la foi. Ils n'ont pas brisé la foi de ces gens-là. Ils n'ont pas brisé la volonté de Dieu. Ça s'est réalisé. Moi, je trouve que c'est très bien ce livre. Pour nous enseigner quelque chose. Il faut marcher par la foi. Un jour, quand je suis devenu au début chrétien évangélique, il y a un gendarme qui était chrétien qui m'avait dit, belge, pas français parce qu'en plein, retraité naturellement, mais ce qu'il y a, c'est un bon copain, et il m'avait dit, Jean, tu ne sais pas ce que c'est de marcher par la foi. Ben non, que ça veut dire? C'est pas la même chose qu'avoir la foi. Non, mais tu vas l'apprendre, il me dit. Il ne va pas te rater, le Seigneur. Tu vas l'apprendre, il me dit comme ça. Purée, au début que je devenais chrétien évangélique, tu vas l'apprendre. Et il met le doigt sur le, presque sur le bout du nez. Ben, ça a été le cas. Le Seigneur veut qu'on ait la foi, mais qu'on marche par la foi. Marcher, c'est se bouger pour Dieu. Et la foi est modelée dans notre cœur, dans notre vie. On dépend de plus en plus de Dieu. Et la foi n'est plus ce qu'elle était avant, hein. Ah oui, je crois que si, je crois que ça. Ah non, la foi, Seigneur, tu es là, tu me diriges. Je sais que je dois aller jusqu'au bout, au port bien-aimé, avec toi. Et que dans tous les détails de ma vie, tu vas soit de m'arrêter, soit de m'encourager. C'est toi qui vas faire la pluie et le beau temps pour moi. Tu vas diriger. Et c'est donc toi le maître, c'est toi le Seigneur. Généralement en Europe, nous cherchons un sauveur, une place avec un strapontin au ciel. Mais il faut un Seigneur sur la terre. Parce que de toute façon, au ciel, il est Seigneur aussi. Il est Seigneur, en plus que d'être sauveur. Et donc, toute l'expérience de moins 557 à moins 417, cette période de reconstruction du temple, du deuxième temple, va être une épreuve de formation. Une épreuve où l'esprit de gloire de Dieu va toucher des gens pour qu'ils aient plus de foi. Vous lisez la deuxième épître de Pierre et vous regardez. Hein. Vous allez voir que il est bon que nous ayons des épreuves afin que le résultat en soit l'honneur, la force, la louange. Hein? Deuxième épître de Pierre. Ben, Pierre est passé par là, comme nous, on doit passer par là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y a des détracteurs qui vont faire des lettres en disant à l'empereur que Cyrus, parce qu'il est mort, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'il était mort. J'étais voir une chronologie, et puis ben, il est mort à 29 ans, donc forcément il y en a déjà eu deux autres. Pan, la lettre arrive dans les mains de Ataxerxès, Assuérus, deux, roi de Perse. Et pratiquement, lui, il ne connaît pas Cyrus. Les événements vont trop vite. Il ne connaît pas la lettre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, notre gaillard? Mais quand il voit arriver des détracteurs qui disent « il y a des rebelles là-haut, ils préparent des djihadistes, ils préparent un coup fourré », ben il attrape peur, c'est ses intérêts. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 21. En conséquence, chapitre 4, verset 21. « Ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. » Il y a quand même une petite nuance. Puisque mon prédécesseur avait dit ça, il faut quand même que je vérifie. Je ne veux quand même pas me faire couvrir de honte devant tout l'Empire. Il faut que je sois prudent. Un peu de sagesse quand même. Sagesse humaine. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente en préjudice des rois. Donc, il est très prudent, ce bonhomme-là. On arrête tout de suite, et il faut vraiment agir. Et en même temps, tant que je n'ai pas changé d'avis, c'est comme ça. Mais je peux peut-être changer d'avis. Hein? Alors, c'est quand même un bonhomme qui gère. Alors, tous ces gars-là qui ont été voir Ataxerxès, ils retournent et vous voyez qu'au verset 23, ils firent cesser leurs travaux par violence et par force. Eh bien, ils s'en prennent aux Juifs. Ils s'en prennent aux Juifs. Ben, c'est quoi? Ben, on va envoyer les CRS, hein. Allez, grenade lacrymogène. Ah, ils continuent. Pan, la matraque. C'est quoi? Ben c'est forcé. Le juif, il sait que Dieu l'a envoyé, que Cyrus l'a envoyé, et l'autre, il ne le sait pas. Ben il va continuer. Eh bien, ça finit par la bagarre. Alors les amis, je vous pose la question. Si vous êtes enfant de Dieu, est-ce que vous accepteriez qu'on vous tape sur la figure pour Dieu? Est-ce qu'on vous accepterait qu'on vous casse les lunettes, qu'on vous casse les dents pour Dieu? Ah, réfléchissez bien, les amis, parce que dans les temps qui viennent, réfléchissez, hein. Je le dis franchement, heureux les affligés, a dit Jésus, car ils verront Dieu. Heureux les persécutés à mon nom. Or, tout l'enseignement de Matthieu, chapitre 5, c'est dans l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, on ne faisait pas de cadeaux aux chrétiens. Ça a cogné. Hein. Jusque 2 ans avant Constantin, il y avait encore des persécutions. Des milliers de chrétiens tués. deux ans la conversion de Constantin, jusqu'en 311. Imaginez le carnage. Et oui, et bien ils ont continué à marcher avec le Seigneur.
Le chrétien n'a pas de riposter ou de s'effondrer ?
Ah non, le chrétien ne ripostait pas. Priez pour celui qui vous maudit. Hein ? Priez pour votre ennemi. Frappez sur la joue droite, ton la joue gauche. Oui ? Si on vous frappe sur la figure, tendez votre derrière. Les amis, c'est pas si marrant que ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est du concret. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de manquer de me faire casser la figure. Et le Seigneur intervenait à la dernière minute. Mais ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver. Et quoi ? Mais je suis en face du gars, il avait sa pioche, et puis je prie le Seigneur. Je demande, Seigneur, si c'est dans ta volonté, empêche-le de me frapper. Ça dure un quart d'heure, il m'injurie avec la pioche là, de chantier. Et puis à un moment donné, le Seigneur de mon cœur me dit, je l'ai désarmé, tu peux lui parler. Je lui parle gentiment, il pose sa pioche. Je prends de ma voiture, je loge à lui chez nous. Et je m'en vais à Bruxelles lui trouver un logement le lendemain. Mais c'est le Seigneur qui change les cœurs, qui contrôle la situation. Des trucs pareils. C'est des histoires qu'on n'ose pas croire. Sauf l'histoire de Saint-Nicolas. Mais chez les chrétiens, il y en a des histoires vraies comme ça. Où Dieu garde. Et c'est pour ça que tout l'enseignement d'aujourd'hui qu'a donné Michael, merci Seigneur, ça correspond à ce livre, à la prédication d'aujourd'hui. Ce n'est pas ma prédication. Hein. C'est le Seigneur. Hein. Je ne suis rien du tout dans l'affaire. Moi. Regardez au chapitre 5. On va essayer d'achever la première partie du livre. Et puis on verra après. Chapitre 5. Agée, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète. Deux prophètes sont là. Ils disent, ben voilà, hein, on a des yeux au beurre noir, on nous a cassé la figure, on nous a cassé nos outils, on a tout arrêté. En plus, il y a l'ordre de l'empereur. Eh bien, les deux prophètes, qu'est-ce qu'ils disent ? Regardez bien. Les vrais prophètes, pas des faux. Prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Donc ils vont parler comme Dieu a parlé à Cyrus. Chapitre 5. Ils vont parler, construisez, n'arrêtez pas. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent, commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Ils continuent à bosser. Même qu'on leur a tapé dessus, qu'on a peut-être brûlé une maison, ils continuent à bosser pour le Seigneur. Et les deux prophètes, ben ma foi, peut-être qu'ils se sont fait casser la figure aussi. Ils ont continué. Merci Seigneur. Merci Seigneur qu'il y en a des pareils. Alors les détracteurs, naturellement, eux, ils ne sont pas contents. Verset 8. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu, elle se construit en pierre de taille, pas du torchis, et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Ouh là là. Nous avons interrogé les anciens. Vous voyez, service secret, hein. La police. Nous avons interrogé. Et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? Ils sont arrivés avec des gyrophares, avec les lampes clignotantes, et puis ils interrogent, croyant impressionner les gens. Mais les autres, ils ne sont pas impressionnés. C'est pas qu'ils ont de la haine sur les gens qui viennent les interroger, mais ils ont confiance en leur Dieu, qu'il est le maître de la situation. Rappelons-nous tout ce qui a été dit avant, à la présidence. Alors, nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Ben oui, comme ça on pourra les passer au lion, au petit four. Hein ? Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Pan. Vous avez vu ça ? Eh bien aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous devons confesser que Jésus nous a donné un privilège d'avoir la vie éternelle à cause de son sang. Et que tout pécheur perdu peut être sauvé par le sang de Jésus. Nous avons l'immense privilège d'accorder aux autres la parole que Dieu nous a dite et qu'ils aient le même privilège. Nous ne pouvons pas nous taire. Les autres ont le droit de connaître la grâce que Dieu a faite en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il en est? C'est la maison de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 2, chapitre 3, la maison de Dieu, c'est nous. C'est mis clairement dans l'Épître aux Hébreux. Je ne me rappelle plus exactement la citation, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire confiance au Seigneur dans la difficulté. Même extrême. Alors, je vais un peu plus loin dans ce chapitre. Le verset 16. Ce Shesh Batsar, c'est le surnom, c'est le nom en araméen de ce, non, en farsi, de là-bas, pour Zorobabel, est donc venu. Il a posé le fondement de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors, jusqu'à présent, elle se construit, elle n'est pas achevée. Ouh là là. Bon, ils sont vraiment excédés, hein, ils en ont marre. Hein. Les autres construisent, on n'est pas arrivé à les arrêter. Et bon, est-ce que voilà. Maintenant que le roi le trouve bon, que l'on fasse la recherche dans la maison des trésors du roi à Babylone, pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison. Et effectivement, au chapitre 6, vous voyez que ce roi, qui a existé entre moins 423 et 404, c'est pas vieux encore de nouveau, hein. Ils ont juste le temps de respirer et de monter sur le trône qu'ils en descendent, hein. De moins 423 à moins 404, vous imaginez. Darius, le Perse, Darius Ier, donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors de Babylone. On trouva à Akhméta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. Donc tout le décret de Cyrus était dans une autre ville, dans une bibliothèque royale. Donc si le roi s'était découragé, il n'y a rien sus, il n'y a rien Persépolis, on bossait bon, hein. Mais non, il a cherché dans une autre ville. Il y avait d'autres bibliothèques royales et on a trouvé l'édit de Cyrus. Bon, ben, ça change tout. Hein? Eh bien, il y a même les indications, les mesures du temple et tout. Hein? Que la maison serait bâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, qu'elle ait de solides fondements, elle aura 60 coudées de hauteur, 27 mètres, 60 coudées de largeur et de longueur, 27 mètres, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles en or, d'argent, la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté à Babylone, seront rendus, transportés au temple de Jérusalem, à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. Imaginez. Alors, tous ces gars-là qui sont là-bas, qui sont forts, qui ont le service militaire, l'armée, les policiers, qui ont la force avec eux, qui ne sont pas contents sur les Juifs, ils voient que l'empereur, tout d'un coup, ne les agrée plus. Alors, ils vont se faire remettre même à leur place par l'empereur. Maintenant, verset 6, Tatnai, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar Boznai et vos collègues d'Arphazak, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, l'Euphrate, tenez-vous loin de ce lieu, de Jérusalem. Ça veut dire, fichez-leur la paix. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tributs de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Ça veut dire que ces gouverneurs-là, qui mettaient dans leur poche tous les tributs, l'argent, et qui en rendaient une partie à l'empereur, les impôts de toute cette région-là, à l'ouest de l'Euphrate, pour la construction du temple. Vous vous rendez compte des coups, les coups de poker que Dieu s'est joué, et les autres. Ben, ça devait râler sec, hein. Ils en ont perdu des milliards. On peut parler en milliards, parce qu'ils saignaient tous les peuples. Et, attention, verset 9, c'est encore plus beau. Les choses nécessaires pour les holocaustes de Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers, agneaux, froment, sel, vin, huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour, sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Tiens, voilà un roi qui dit, moi je rigole pas avec leur Dieu des Juifs. Ça va, je fais tout exactement comme il faut le faire, il faut qu'il soit adoré. Et moi, je sais bien que ça va retomber sur moi et mes enfants et ma famille. Les amis, cette histoire-là, un jour arrivera à ce monde. Arrivera à ce monde, la venue de Christ, l'autorité de Christ, fera plier tous genoux. Et même les incrédules, les opposants, devront plier et se soumettre. Ne badinez pas avec notre Dieu, notre vrai Dieu. Et si quelqu'un transgresse l'ordre que je donne, verset 11, ben je sais expliquer. On prend une poutre dans sa maison, on la dresse, on le prend après. Et il rigole pas, hein, le gaillard, au verset 11. Ça va? Vous voyez comment l'autorité de Dieu peut agir par des incroyants? C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Quand on est dans les mains de Dieu, quand on s'est mis dans les mains du Seigneur, ne pleurez pas parce que c'est dur. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas parce que... Ah si j'avais su, ah si je... devenir chrétien, c'est pas marrant. Regarde tout ce qu'on rate, les autres s'amusent bien. Oh purée, j'étais mieux avant. Mais ça, la femme de l'autre l'a fait, elle est devenue une statue de sel. Et vous? Vous voulez retourner dans la boue du péché? Vous voulez aller en enfer? Jamais, disons, le Seigneur ne veut pas ça. Il a des choses meilleures pour nous. Alors, au chapitre 6, verset 14, les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agée, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, en sixième année du règne de Darius. Donc, moins 417. Alors, on va faire une fête. On va faire, hein. Il faut offrir cette maison, c'est à Dieu, mais il faut fêter Dieu et il faut dire que c'est à Dieu, pas à nous. Et c'est la dédicace. Et c'est tout le reste, hein. Et puis, on va célébrer la Pâque, au verset 20. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité. Il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas fait la Pâque, hein. Je vous garantis que ça avait... Ils l'avaient oublié depuis longtemps, hein. Alors... Verset 21, les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays, qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain. Bon, les amis, dans ces versets, il y a quelque chose d'extrêmement important. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. C'est dans notre nature d'enfant de Dieu. Rendre grâce à Dieu. Nous sortons de la captivité du péché, nous entrons dans la liberté du Saint-Esprit. Nous avons une terre promise, le règne de Christ. Nous avons un ciel promis, hein, avec le trône de gloire de Dieu, etc. Nous sommes assis en Christ auprès de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, c'est mis clairement. Nous sommes ressuscités en Christ, nous sommes assis. Nous avons une place. Dieu nous attend, il a réservé la place. Ce n'est pas dans le placard, ce n'est pas derrière le cabinet ou au fond du jardin, derrière je ne sais pas quoi, les brouettes et les râteaux. Non, c'est à côté de lui. Alors, et qu'est-ce qu'il y a? On fête, on adore, parce qu'on sait ce qui nous attend clairement. Et parce qu'on s'est éloigné de l'impureté des nations. Donc, l'arme des nations, c'est l'impureté. L'arme du diable, c'est l'impureté. L'enfant de Dieu doit faire attention. Tous les échecs commencent avec l'impureté. Ce qu'on appelle l'impudicité, la débauche. Et paf. Après, c'est le mensonge, c'est l'endurcissement. Et puis tout le reste. Les 7 attributs du malin nous arrivent dans la vie. Et on n'est pas enfant de Dieu. On est enfant du diable. Et les amis, voilà. Il y a un miracle quand même dans cette vie d'Israël. Moi je dis qu'un des grands miracles qui prouve l'existence de Dieu, c'est la vie d'Israël. La vie d'Israël, le peuple d'Israël, c'est un miracle en soi. Je peux prendre toutes les pages de l'Ancien Testament et le montrer. Et je crois qu'il y a un miracle qui est très proche, que la télévision et la radio ne veulent pas vous montrer, ni me montrer. Moi je l'ai vu à côté de Beth-Shemesh. Je logeais à Beth-Shemesh, avec les Felacha, les Juifs noirs, d'Éthiopie, d'Érythrée et tout ça. Et il y avait la vallée où était passée l'Arche d'Alliance, avec les vaches. les Juifs ont sacrifié, les Hébreux ont sacrifié deux vaches, ont fait un autel et la charrette. Mais de l'autre côté, sur la colline, il y a le temple d'Étienne. Il y a une colline avec des caroubiers, des caroubles que l'enfant prodigue avait mangé. Très bon, ça sent le chocolat. C'est très bon. C'est magnifique. Et alors, on est au-dessus, il y a une petite église avec des mosaïques, et on s'assied. On regarde. Il y a quatre vieux prêtres italiens, là, qui parlent toutes sortes de langues. On voit des Juifs passer. Ça passe, ça passe. Contrairement aux Français et aux Belges, ils ne s'intéressent pas au patrimoine. Ils rentrent, ils sortent, ils ne prennent pas de photos, rien du tout. Tandis qu'en France, le patrimoine, c'est sacré. Hein. Il y a des tickets d'entrée, il y a tout, il y a des brochures, il y a des revues, il y a des montages. Là, pas, alors que c'est un chef-d'œuvre, l'église. Et qu'est-ce qu'il y a? Ils vont tous derrière l'église, il y a un auvent, il y a des milliers de Bibles, au moins là, comme la pièce ici, jusqu'au plafond, en bulgare, en roumain, en français, en russe, tout ce que vous voulez, avec le Nouveau Testament dedans, pour les Juifs messianiques. Pour tous les Juifs qui cherchent Jésus. 110 000 Juifs vont tous les ans à cet endroit-là. Hop, ils regardent l'église, c'est le prétexte, l'alibi, et puis ils prennent une Bible avec Jésus. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que la télévision ne nous dit pas qu'Israël va se convertir et qu'il est minuit moins 5. Le figuier reverdit. Il reprend des branches, il reprend des feuilles. Le figuier reverdit. Quand le figuier reverdit, Jésus revient. Nous ne sommes pas loin. Et je bénis le Seigneur d'avoir été sur cette colline-là. J'avais dit aux copains, on va monter là-bas au-dessus, on verra bien quelque chose de beau. C'était beau, les fleurs, le paysage, tout. Les quatre vieux prêtres étaient très sympas, très gentils. Mais alors là, la surprise de voir autant de Juifs qui vont chercher un Nouveau Testament, une Bible, dans toutes leurs langues, de tous les pays d'origine, et aussi en hébreu. Les amis, c'est pas aussi un retour comme s'ils revenaient de Persépolis et de Suse et qu'ils retournaient à Jérusalem, ça? C'est aussi important ce qui se passe maintenant. C'est un retour vers le Messie, vers celui qu'ils ont crucifié. C'est un retour vers celui qui a donné son sang pour eux. Et il a quand même dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Et quand les Juifs sont convertis, ça y est. Nous aurons mieux que le temple. Nous aurons le roi. Nous aurons Dieu en face de nous. Et donc le livre d'Esdras, pour moi, est très sympa. Il est très encourageant. Il ne faut pas se dégonfler, les amis. Prions Seigneur, adorons-le. Mettons notre foi en lui. Amen.